Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Que feriez-vous si vous croisiez un sanglier en courant? Eh bien, mon invité leur parle. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons ensemble de course à pied, de trail, de bouger, de dormir, de bien manger, du bonheur que c'est de courir. Et mon invité du jour, bah lui, vraiment, si vous regardez son compte Instagram, vous verrez qu'il a toujours un grand sourire. Et puis en plus, il fait plein de photos super amusantes. Mon invité, c'est Cyril, alias Le Taz. Bon, vous comprendrez, il va expliquer pourquoi c'est Le Taz. Parce que tout simplement, il est boulimique, il aligne les kilomètres. Il aligne aussi des dossards un peu mythiques, l'UTMB. Il s'est aussi c'est au triathlon avec le Ventouman. Et dans cet épisode, il partage son vécu, sa manière d'envisager la course. Alors, il n'aime pas donner de conseils, mais partage quand même beaucoup d'expériences et quelques astuces alimentaires, dans cet épisode, dont une que je ne connaissais pas du tout et que je vais m'empresser d'essayer. Nous avons aussi parlé de ses Cévennes, dont il est originaire et qui ont forgé son mental, de son projet off qu'il a en tête, qui a été remis cette année, de sa manière d'envisager une saison et la course à pied dans son ensemble. Et puis vous comprendrez aussi son amour pour la nature, son habitude de ramasser les déchets au fil des kilomètres, et vous saurez enfin pourquoi il a un loup dans son Instagram, dans le nom, sur son compte Instagram, et comment il réagit face à un sanglier, donc son astuce. Avant de vous laisser avec cette chouette discussion avec Cyril, je voudrais d'abord faire mes merci habituels. Alors merci pour vos commentaires, merci pour vos messages, merci pour vos partages sur Instagram, partage de story, @Bertrand Soulier ou le hashtag KM42podcast. Et puis merci aussi pour vos commentaires, notamment sur Apple Podcast. Un commentaire d'Aquéron qui dit « Le podcast de Monsieur Madame, tout le monde intéressé par la course à pied et un meilleur mode de vie. Ici, pas de prétention, pas besoin d'être un athlète pro. Avec une constante bonne humeur et joie de vivre, Bertrand nous livre ses conseils, nous relate ses expériences, ses apprentissages et nous fait découvrir des acteurs du monde du running pour que nous, auditeurs, puissions améliorer notre performance et construire des objectifs. » Cours, Bertrand, cours, il dit. Oui, alors merci beaucoup pour ce commentaire. Et c'est vrai, ces acteurs du monde du running, Le Taz, vous allez voir, aujourd'hui, vraiment, il a une vraie belle philosophie et c'est pour ça que je voulais le recevoir. Et je voulais aussi remercier, avant de lui laisser la parole, Charlotte, qui a rejoint la tribu des patrons. Vous savez, c'est ceux qui financent le podcast par le biais de Patreon. Ça vous permet d'avoir accès à des épisodes sans la pub, mais aussi à mon journal d'entraînement que je publie tous les lundis, et puis je vous donne des petites astuces, des petits conseils, des choses comme ça, et ça me permet moi de financer cette nouvelle vie que je crée avec vous, sous vos yeux, en direct. Maintenant, il est donc temps de laisser la parole à Cyril, qui va nous relater ses aventures, ses tribulations, j'ai envie de dire, sa vision des choses, et vous allez voir, c'est vraiment passionnant et super, super, super intéressant et très inspirant. Allez, je vous laisse avec cette discussion, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonjour Cyril.
Bonjour Bertrand.
Alors, je sais pas d'ailleurs si je dois t'appeler Cyril ou plutôt Le Taz. Comment tu préfères que je t'appelle dans cette histoire?
Oh, mais honnêtement, comme t'en as envie, parce que c'est soit Cyril, soit Le Taz. Après, Le Taz, c'est plus, on va dire, un pseudo que j'ai sur les réseaux sociaux. Mais bon, mon vrai prénom, c'est Cyril. En plus, j'ai la chance d'en avoir qu'un, donc autant l'utiliser.
Alors, c'est intéressant d'ailleurs, parce que d'où vient ce surnom? Comment il est venu, ce surnom, en fait?
Oh, mais ce surnom, c'est bien simple. Je suis de la vieille génération du siècle dernier. Donc, on connaît tous les Looney Tunes. J'étais fanat de dessins animés. Et puis, comme je suis quelqu'un qui part un peu dans tous les sens, qui est un boulimique de tout, ben, les copains m'ont affublé de ce joli surnom. Voilà, tout simplement.
Tu dis que t'es boulimique de tout. Alors c'est intéressant parce que hier j'ai regardé sur ton compte, t'as participé au challenge là des t-shirts de course. Alors je sais pas combien t'en avais enfilé sur l'instant, mais t'as une belle collection quand même de courses, de belles distances d'ailleurs. On va en dire quelques mots sur. Je sais pas quel t-shirt t'as mis hier, combien t'en as mis, mais quelques courses. Tu pourrais citer quelques courses auxquelles t'as participé, par exemple, pour donner un petit peu l'étendue de ton parcours à ceux qui vont écouter ce podcast, qui te découvrent hein, par ce biais-là?
Bon, ben, quelques courses, il y en a tellement que c'est difficile de toutes les nommer, mais bon, on va parler peut-être de grosses courses mythiques, ben, style l'UTMB, que j'ai eu la chance de terminer. J'ai aussi eu la chance de finir l'UTCAM dans la région de Nice. J'ai fait la Montagnarde, l'X-Alpine en Suisse. J'ai aussi fait le Half Marathon des Sables. Ça, c'est tout ce qui est un peu trail. Bien d'autres encore. J'ai eu la chance de faire le Stevenson aussi, dans ma belle région des Cévennes. Puis j'ai aussi fait les 24 heures à pédalo dans ma jeunesse, du côté de Istres. Et puis je me suis lancé aussi le défi de faire un triathlon l'année dernière. Voilà, donc ben, tout défi est intéressant à relever, donc ça me prend comme ça, et puis j'essaye de me donner les moyens de les faire.
T'as toujours été sportif, hein. Alors, je le dis hein, parce que t'avais participé à un podcast de Let's Trail Podcast qui était très intéressant dans lequel tu racontais ton parcours. On va revenir dessus un petit peu, mais je renvoie les gens sur cet épisode-là où tu expliquais tout ton parcours. Et notamment, il y avait un truc qui m'avait amusé, c'est que t'as dit, t'es pas un coureur au départ, hein, t'es plutôt sport co.
Ouais, à la base, je suis plus sport co, bien que j'ai commencé un peu dans le vélo, mais j'ai aussi fait du foot, et puis j'ai fini par le rugby. Donc, ouais, j'ai commencé le sport très très jeune, ne venant pas d'une famille de sportifs, hein, parce que mes parents aiment le sport, mais ne le pratiquent pas comme moi j'ai pu le développer. Mais par contre, ils m'ont suivi et encouragé dans mon développement personnel, dans toutes les pratiques que j'ai pu essayer.
Je me rappelle, tu disais que t'aimais pas spécialement courir non plus ou ça te paraissait un peu bizarre non de courir ou en tout cas sur route en tout cas hein, si mes souvenirs sont bons.
Ah ouais, courir pour moi c'est très compliqué quoi. Voilà, j'avoue que ouais, on a tendance à me traiter de fou, mais j'aime pas spécialement courir quoi. J'aime découvrir mais pas courir.
Et alors pourquoi courir justement? Alors si t'aimes pas courir, pourquoi finalement Pourquoi? Parce que je sais pas combien de temps tu cours. Alors en ce moment c'est un peu particulier, mais on va dire dans une semaine normale, tu cours combien de temps à peu près?
Une semaine normale, si on parle vraiment de préparation à l'état pur, je cours entre 4 et 5 fois par semaine. Disons la semaine, les jours ouvrés, je cours pas plus d'une heure, 1 heure et demie. Après, c'est sûr que les week-ends, je peux arriver à me taper par sortie 4, 5, voire 6 heures de sortie, quoi. Donc ça peut monter jusqu'à 12 heures le week-end, quoi, si on fait 2 sorties samedi et dimanche. Donc oui, ça représente des distances, mais bon. Quand je fais du trail, c'est courir, certes, mais c'est surtout essayer de trouver une trace, rechercher, varier les plaisirs, quoi. La chose que je n'arrive pas à trouver sur des courtes distances.
Oui, alors en plus, bon, on l'entend à ton accent, hein, t'es du sud, alors tu parlais des Cévennes, mais t'es à Marseille, hein, maintenant.
Oui, je vis à Marseille depuis 96 ans.
Ouais, et il y a beaucoup de photos quand même t'es une vraie, alors je sais pas si on peut appeler ça on reviendra sur les photos, mais parce que c'est, t'es les calanques, etc., t'es vraiment amoureux, vraiment, des terrains sur lesquels tu vas, hein.
Autant se faire se peut, il faut essayer d'aimer là où on va. Donc bon, j'ai la chance de vivre contre les calanques, donc ben, c'est relativement facile. Et en plus, comme c'est un terrain de jeu qui est, à mes yeux, j'y vis depuis 1996 et je découvre encore des endroits. Donc t'imagines, avec le nombre de kilomètres que je fais jamais la même sortie, quoi. J'ai cette chance-là. Donc c'est oui. Honnêtement, au début, on est un peu effrayé de la région. Ça peut-être, moi qui viens d'un tout petit village, hein, à peine 200 âmes, quand tu arrives ici, tu peux te dire, tu ne vas pas y rester longtemps, quoi. Et puis petit à petit, si tu creuses un peu, tu es obligé de tomber amoureux du secteur.
Est-ce que, rassure-moi, est-ce que ça t'arrive de te perdre ou pas dans ces terrains ou est-ce que je suis le seul à me perdre aussi souvent que ça quand je pars dans ces zones-là, dans des terrains comme ça?
Me perdre, je peux pas dire que je peux me perdre, c'est-à-dire je peux me tromper. C'est-à-dire que par exemple, si je me suis défini un parcours, je peux arriver à me tromper parce que ben, tu manques un chemin, Tu peux être un tout petit peu désorienté en fonction des conditions climatiques, mais comme j'ai un relativement bon sens de l'orientation, j'ai tendance à savoir où je suis, donc je reviens facilement au point de départ. Voilà.
Ce qui est quand même assez pratique, hein, faut le dire.
Surtout quand tu n'as jamais connu le GPS, donc l'avantage est là, parce que moi, j'ai commencé à découvrir la montagne, il n'y avait pas tous les outils qu'on a à notre portée maintenant, mais oui, c'est une grande chance. Mais bon, je peux te dire merci à l'armée aussi, hein, parce que grâce à l'armée, on a fait des grosses courses d'orientation, donc ça m'a permis, ben, voilà, d'appréhender à lire une carte, à savoir où on est en fonction de l'environnement, toujours être observateur en fait, c'est ne pas être là, ne pas, on va dire, consommer l'endroit, profiter de l'endroit, c'est tout.
Ouais, tu fais partie de la team qui s'est utilisé une boussole, une carte. C'est quoi, pas chasseur alpin, mais quelque chose comme ça, non? Ou...
Ouais, j'étais dans les troupes de montagne, j'étais au 93e régiment d'artillerie de montagne du côté de Grenoble, dans les années 90.
Oui, alors c'est marrant parce que tu parles comme un vieux, mais t'es pas si vieux que ça quand même, hein,
Non, je suis pas vieux, aujourd'hui j'ai 47 ans, donc ça va, mais j'ai quand même, j'ai connu une certaine évolution depuis la fin des années 90, quoi.
Oui, effectivement, à une époque où on se partait pas avec un téléphone portable dans la poche parce que le concept
C'est ça.
n'existait pas.
C'est un peu ça.
Oh, mais moi, tu sais, j'ai dit, quand j'étais étudiant, je disais, ouais, mais moi, le téléphone portable, ça me sert à rien, j'en aurai jamais, j'en aurai pas. Enfin, tu vois, j'étais déjà un truc comme ça. Quand je vois le temps que je passe dessus chaque jour, à regarder, à prévoir les choses, etc. Quand je vois toute la technologie qui est embarquée, hein, sur nos montres, etc. C'est quand même juste, hallucinant, hein, de regarder tout ce qu'on peut faire, tous les suivis, toutes les choses comme ça. T'es un grand fan ou pas des gadgets, des mondes, des technos? Tu regardes beaucoup ce qu'il y a dessus ou est-ce que t'es plus sensation? Comment tu vois les choses?
On va dire que si on parle de mon entraînement à proprement parler, c'est plus sensation. Je me sers plutôt d'outils pour savoir un peu où j'en suis, quoi. C'est-à-dire que quand je décide de faire une sortie d'une quinzaine de kilomètres, peut-être 1000 mètres de dénivelé, c'est de savoir à peu près où j'en suis, voilà, par rapport à la distance et au dénivelé que j'ai parcouru. Mais je regarde pas mes statistiques, mes points de passage, voilà, je suis pas un fanat de la performance à l'état pur, donc bien évidemment qu'on regarde un peu son volume sur une année pour voir un peu ce que ça peut représenter, mais voilà, je ne scrute pas ça, je ne scrute pas ma montre, on va dire toutes les 5 secondes. Et j'ai tendance même à mettre des alarmes plus tous les 5, voire les 10 km que tous les kilomètres. Voilà.
Oui, alors moi je suis comme toi, moi je supporte pas quand elle bip tous les kilomètres. Là, j'ai une nouvelle montre qui, tu sais, qui est en réglage automatique avec un signal tous les
Oui.
kilomètres. Faut que je trouve la désactiver. L'autre jour, je suis parti marcher, j'ai dit mais pourquoi elle bip? En fait, c'est juste
Ouais.
un kilomètre et tout. Je dis bon, ça, je vais le
Ouais.
désactiver. Mais par contre, effectivement, des fois, il y a des petites alarmes qui sont pratiques, notamment celle. Je sais pas si toi c'est un problème que t'as, mais moi je sais que m'alimenter des fois, boire des coups, etc. Des fois, on peut perdre des repères. C'est le genre d'alarme que tu mettrais toi, en fait?
Ben en fait, bon, pour parler un peu de ce que je fais, c'est quand je pars en course sur de la longue distance, en début de course, j'ai mis une alarme de boire toutes les 10 minutes et de manger toutes les 45 minutes. Alors c'est vrai qu'au fil des heures, tu as tendance à l'oublier ça. Donc boire toutes les 10 minutes, je me suis aperçu qu'au bout de 2-3 heures de course, en fait, dès que la sensation arrive, tu bois de suite. Et là, et ça globalement, ça sonne direct. Après, c'est plus la partie alimentaire qui est pour moi prépondérante sur les longues distances. J'aime bien avoir une bonne alimentation sur les premières heures de course. Parce que c'est la première. C'est pour, on va dire, pour pas trop perdre d'énergie sur la longue distance, parce qu'après, on sait pertinemment que plus ça va avancer, plus on va avoir des soucis pour s'alimenter. Voilà.
Enfin, t'es plutôt dans la team salée, la team sucrée, la team un peu mixte, la team
Alors
jamais d'un
moi, c'est...
sandwich.
Ouais, bah alors, je ne suis pas spécialement adepte du sandwich, parce que je mange très peu entre ravitaillements. Je vais dire que les vivres de course que j'ai avec moi, c'est vraiment si jamais je suis pas bien ou si je m'arrête. Voilà, c'est de la sécurité. J'ai surtout, je m'alimente surtout au point de ravitaillement et je suis très salé. Voilà, très très salé. Et puis surtout, on va dire l'aliment qui fait plaisir. Donc, quand on fait de la longue distance, on a la chance d'avoir eh ben, de la soupe. Et la soupe, ben, pour moi, c'est quelque chose. Voilà, même quand il fait chaud, ça nous permet d'avoir un peu de glucides, aussi de l'hydratation, parce qu'on peut en manquer souvent. Il y a souvent du sel. Donc, et après, je mange du saucisson, du fromage. Alors après il m'arrive de manger des choses un peu improbables. J'ai fait une course en Italie où il y avait du raisin au ravitaillement et le raisin, gastriquement, c'est peut-être pas la panacée, mais manger 2-3 graines de raisin comme ça qui te font plaisir, ça te remet un peu dans un nouveau monde et tu peux repartir tranquillement à la sortie de ton ravitaillement, quoi.
Bon, tu sais, j'ai reçu Antoine Miel qui disait que lui, il partait avec des tagadas, des fraises tagadas dans son sac,
Oui,
là,
mais
sur les grandes courses.
oh, j'ai des copains, ils partent avec des bonbons, exactement. Voilà. Toujours avoir un truc plaisir, parce que ben, quand on part longtemps, comme a dit Antoine, c'est le cerveau qui travaille. Je pense qu'on est tous prêts physiquement, mais on a besoin surtout que mentalement, on se disperse pas, quoi.
Tu dis on est tous prêts physiquement. Alors ça c'est un truc tu vois qui pour moi qui fait passer des grandes distances comme ça. Je me dis mais comment tu sais que t'es prêt physiquement en fait. Tu vois c'est genre truc comme ça je me dis parce que t'as par exemple tu disais t'as fait l'UTMB. Puis ça fait partie d'une course qui était en plus et là je renvoie encore à cet épisode-là où tu le racontes bien en fait. Hein, elle est importante hein, pour toi cette course.
Ah ben oui, c'était mon gros objectif de mes 40 ans.
Ouais, tu vois, moi c'était courir un marathon, toi c'est l'UTMB, c'est quand même des sacrées distances. Comment tu sais que t'es prêt au départ de l'UTMB à te dire je pars pour... Il faisait combien à l'époque de kilomètres?
Ah, moi, il faisait, je crois que j'ai fait quasiment la seule édition qu'il a fait 170 et 10 000. Parce qu'à l'époque, on passait, disons, il passe toujours aux pyramides calcaires, mais il passe plus, mince, comment ça s'appelle, la dernière montée, parce qu'il tire directement à la Flégère et au col des montées, il redescend direction Argentière, et nous, alors, on tirait tout droit, ça s'appelle, j'ai oublié le nom. Ça passe sous les aiguilles rouges, ils n'y passent plus parce que je crois que maintenant c'est un peu trop exposé. Et donc j'ai eu la chance de faire une UTMB exceptionnelle parce qu'il a fait un temps. Ouais, il faisait même trop chaud pour moi parce que j'ai jamais mis de long, quoi. Malgré les 43 heures que j'ai passées dehors, quoi.
43 heures. Oui, et donc, alors, comment tu sais que t'es prêt au départ de ton UTMB?
Ouais, alors là, au départ de l'UTMB, le problème, c'est qu'à l'époque, il existait très peu de distances intermédiaires. C'est-à-dire que tu faisais 100 km et après, tu passais de suite aux 170, quoi. On avait très peu de courses, il existait quasiment pas de courses de 140 km, 120 km, hein, voilà, comme il peut en exister aujourd'hui. Donc, faire 100 km, c'est bien, c'est très très beau. Mais la marche 70 km de plus en montagne, c'est ouais, tu pars dans l'inconnu en fait. C'est là par contre, ouais, tu crois que tu es prêt, mais le jour où je me suis présenté au départ de l'UTMB en 2015, je la ramenais pas trop, quoi, hein, parce que tu sais pas. Personnellement, là, tu avais fait le boulot, tu t'étais préparé, tu avais été sérieux, mais moi, je savais pas que j'étais capable de le faire, quoi. Et d'ailleurs, jusqu'à Courmayeur, je savais pas que j'allais le finir, quoi.
T'en gardes quel souvenir maintenant parce que finalement le si t'as une image qui est marquante tu te dis il y a un truc vraiment marquant de ce souvenir-là en fait.
Ouais, je dirais, il y a des images, mais ouais. Alors, c'est peut-être pas des. Ah, c'est un peu tout, quoi. Moi, l'image, alors l'image, une grosse image, c'est ce gros serpent de lampe frontale que tu peux voir sur les montagnes. Voilà, ça c'est une marée humaine qui parcourt les montagnes, et c'est très très impressionnant, quoi. Et puis après, comme j'ai eu la chance de le faire une année de pleine lune, mais de grosse lune, tu n'en avais quasiment pas besoin. Comme tu es très 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 très, très beau, hein, très très haut en altitude, globalement, il faisait quasiment un jour, quoi. Tu pouvais courir sans frontal, quoi.
Oui, c'est quand même, ça doit être une sensation très spéciale, j'imagine, hein.
Ah ben, si j'ai de pouvoir courir sans frontal?
Bah, de
Ouais,
courir comme ça en montagne, sans frontal, parce que finalement, t'as plus grand, j'ai envie de dire, j'allais dire lien avec la civilisation, mais c'est un petit peu ça. Enfin, vous êtes nombreux quand même quand vous partez, mais c'est vraiment, j'allais dire. Pas le côté animal, tu vois, mais je sais pas trop comment l'exprimer, tu vois, la sensation, mais de dire finalement je suis dans la nature et je suis au milieu de tout ça, quoi. C'est
ah,
gigantesque
tu...
et en même temps j'ai pas
ah,
mal, j'ai pas besoin de lampe ni rien, quoi.
ah oui, tu as une sensation de liberté. Bon, après, tu es quand même en sécurité, comme tu dis, comme il y a du monde. Donc, voilà, tu restes toujours en contact, surtout sur l'UTMB, parce que tu n'es jamais seul. Sur d'autres courses, tu as tendance à être beaucoup plus seul quand même. L'UTMB, c'est quand même assez sécurisé quand même, de ce niveau-là. Hormis tous les ravitaillements que tu peux avoir tous les 15-17 km, après, tu es tout le temps avec quelqu'un, quoi.
Par rapport aux autres courses auxquelles tu as participé, si quand tu y penses comme ça, finalement, est-ce que tu dis l'UTMB, ça reste la plus grande course, ou est-ce qu'il y a d'autres courses qui peuvent paraître être moins connues comme ça, moins emblématiques, mais qui au final t'ont semblé peut-être plus compliquées, plus dures à gérer, ou peut-être plus, tu te dis, bah c'est peut-être la grande course qui va arriver maintenant, c'est peut-être celle-ci, je sais pas, enfin.
Moi, je dirais, comment se positionner pour faire un classement de course, je me baserai pas là-dessus. C'est plus l'UTMB, ça reste mythique parce que c'est l'une des premières grandes courses. C'est-à-dire que moi, comme j'ai dit, j'ai pu le dire, j'ai assisté en 2003 au deuxième départ, je crois. Donc, c'est assez impressionnant. Les gars, ils partaient pour 140 km à l'époque. Donc, c'était un peu moins important, mais ils partaient avec rien du tout, quoi. J'ai un ami qui l'avait faite, cette version de 2003. Il partait avec rien. Il y en a, ils se prêtaient les frontales. Donc, bon, on était. Ouais, non, mais. Puis après, le matériel, c'était pas du tout le même. Après, l'UTMB, ouais, ça reste mythique. C'est-à-dire, c'est quand même une course, un environnement. C'est une des courses où tu es quand même quasiment le plus haut en montagne, c'est-à-dire que tu passes à des cols presque à 3000, donc c'est quand même de la haute montagne. Donc, et ça peut être très compliqué. Moi, j'ai eu la chance de le faire, on va dire, dans des conditions très favorables, mais bon, j'ai un ami qui l'a fait dans d'autres conditions, c'est pas la même course, donc voilà. Et des courses qui paraissent peut-être moins longues peuvent être peut-être plus difficiles. Moi, j'ai fait, par exemple, l'UTCAM à Nice. Il est moins long, mais il est pour moi tout aussi engagé et difficile que l'UTMB. Voilà. C'est parce que ben, le terrain n'est pas le même, parce que ben, la dénivelée est peut-être plus importante par rapport à la distance. Voilà. Donc, toutes les courses ont vraiment leur spécificité, puis moi je pense qu'elles ont leur charme, et c'est pour ça que je ne les refais pas en fait. Ça c'est ma... Hormis si j'ai eu un échec, parce que j'en ai eu, j'ai tendance, ben, je l'ai fait, mais je ne vais pas y retourner, quoi. Je ne vais pas y retourner, pas parce que ben, je n'ai pas envie, mais parce que ben, je pense qu'il y a d'autres choses à découvrir, quoi. Je ne fais pas ce sport-là pour me dire, ben, l'année dernière j'ai fait, disons, je me suis dit... J'ai fait l'UTMB en 2015 en 43 heures. Est-ce que je suis capable de le faire en 40 heures? Je ne sais rien. Et puis, je n'ai pas envie de le savoir, en fait. Je l'ai fait. C'est quelque chose qui m'est personnel. Je me suis régalé. Et puis, voilà. À la rigueur, si un copain me dit, tu m'accompagnes sur l'UTMB parce que j'ai envie de le faire et je n'ai pas envie d'être seul, j'ai dit, ouais, il n'y a pas de souci, je viens avec toi. Mais à titre personnel, je n'y retournerai pas.
D'accord, tu te dis même pas, allez, je fête les 10 ans de mon premier UTMB, j'y retourne pour mes 50 ans ou un truc comme ça en fait.
Non, même pas. Ah, non, non. Alors là, c'est même pas pensable. Voilà, je me projette absolument pas sur le sujet, quoi. Je dis, j'avais peut-être la possibilité de faire la troisième de l'UTMB l'année dernière, disons cette année, quoi. De faire la TDS. Ben, j'ai voulu y aller parce que ben, la TDS est une course totalement différente par rapport aux deux autres, que ce soit la CCC ou l'UTMB. On n'est pas du tout sur le même parcours. C'est voilà, c'est et oui, là j'y allais avec bon cœur parce que c'est une autre course. C'est dans la même semaine, mais c'est une autre course.
D'accord,
Et
donc.
voilà, j'aime pas me repositionner sur quelque chose que j'ai déjà fait, quoi. Ouais.
D'accord. Et finalement, est-ce que c'est important dans ces courses-là de le parce que bon, tu connais ton chrono, etc. Tu dis, je veux pas savoir si je peux le rebattre ou pas. C'est un critère qui est important pour toi ou finalement tu au final il reste anecdotique?
Le chrono totalement reste anecdotique. Totalement. Voilà. Parce que, ben, parce que comme je l'ai dit, d'effort, tu sais pas trop où tu pars, quoi. Parce que tu connais pas le terrain, parce que comme je suis un peu empirique, je reconnais pas la course, je reconnais pas de tronçon, donc en fait, c'est de la découverte à l'état pur, quoi. Donc je pars plus en mode gestion qu'en mode je vais faire quelque chose de performant, quoi. Je pars en gestion. En fait, normalement, quand j'arrive, j'en ai encore pour continuer, quoi.
D'accord, tu te dis bon, maintenant que j'en ai fait 140 ou 150, je peux encore en faire 20, 30 de plus?
Voilà, exactement. Mais après, comme bon, je pense que comme tous les coureurs, quand le cerveau il est préparé à faire 100, 120, 80, 40, une fois qu'il est prêt à faire ça, il y va. Machinalement, il y va. C'est-à-dire que ben, après, oui, c'est une question de mental, mais quand tu te dis ben, je vais faire, mais physiquement, le cerveau, au bout de 40 km, il n'a plus envie. Par contre, ton corps, il n'est pas épuisé. C'est ce que je veux dire. C'est que moi, j'arrive, j'ai décidé de faire 100 bornes. Le cerveau y va, mon corps évidemment, mais quand j'ai fini ces 100 bornes, eh ben derrière, je suis capable encore de marcher, encore capable de vivre. Voilà, je m'arrête pas au bout de 5 km. C'est-à-dire que derrière, j'ai fait les 5, le cerveau a fait les 5 km, mais le corps est capable d'en faire encore autant, quoi.
C'est ce que je voulais dire parce que c'est amusant, tu vois, ce genre de truc, parce que c'est souvent après le marathon de Paris, j'ai remarqué, on dit oui, t'arriveras pas à descendre les escaliers, le métro, etc., t'en vas pas à marcher et autres. Et j'avais reçu Stéphane qui avait fait lui il a fait le M-Extrême à Montreux cette année, c'est 130. Et il disait oui, mais le lendemain finalement j'étais un peu fatigué, mais je marchais, hein, j'avais pas cette fatigue, etc. Et tu nous dis finalement exactement la même chose, c'est que alors je sais pas si tu retournes travailler directement le lendemain, mais finalement t'es pas, j'allais dire au bout de ta vie, mais finalement
Ah
c'est.
non, mais c'est ça. Il y a que l'UTMB où j'avais pris une semaine de congé derrière, parce que ben, comme je t'ai dit, j'étais un peu dans l'inconnu, donc j'étais plus dans la gestion. Mais aujourd'hui, toutes les courses que je fais, globalement, le lundi, je suis au travail.
Ouais. Et tes collègues, ils trouvent pas ça bizarre? Enfin, ils disent quoi quand tu leur racontes ça en fait?
Ouais, il me prennent un peu pour un fada, comme on dirait ici. Hein. Ouais, c'est pas très humain ce qu'on s'inflige. Hein. On va dire pour les personnes qui font certes du sport ou ils se demandent ce qu'on va chercher là-bas, quoi. Hein. Parce qu'ils pensent qu'on y va pour souffrir, alors que, ou pour subir. Non, non, on y va parce que ben, parce que c'est notre façon d'être, notre envie, notre détermination. Et je pense que bon nombre de pratiquants d'ultra comme moi, hein, j'ai des copains de la même génération, on est sur le même cas, quoi. Hein. Parce qu'on n'est pas des performeurs à l'état pur, on y va pour une grosse dose de plaisir et une grosse partie d'amusement, quoi. Alors certes, il n'y a pas que des moments faciles. Là, on est en train de parler de tout ce qui se passe bien, hein, mais il y a des moments pas faciles. Hein, mais il faut savoir les gérer, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir que, en fonction des hauts et des bas, tu es capable de gérer beaucoup de situations, quoi.
Et oui, parce que t'as dit que t'as eu des échecs, hein, notamment. Ça veut dire qu'il y a des courses où, enfin, c'est quoi? C'est de la blessure, c'est de l'abandon. Tu te dis j'y arriverai pas, ou que ça se passe comment dans ces cas-là?
Ben, je vais te dire, mon premier gros échec, ça a été parce que c'était une notion de boulimie. de boulimie parce que bah, tu te mets au trail et puis tu veux faire, tu fais 10, tu fais 15, tu fais 30, puis tu fais 40, de 40 tu passes à 80 et puis quand tu es à 80 tu exploses. Bon, après, j'avais pas pris le plus facile, mais voilà, tu te retrouves à 80 km et puis tu exploses en vol, quoi. Mais tu exploses. Tu exploses parce que c'est le mental qui s'est fissuré parce que tu te battais avec les barrières horaires. Et quand tu n'es pas préparé à ce genre de lutte, ben, c'est le moral qui s'est fissuré, quoi. Et après, les deux ou trois autres abandons, il y en a deux, c'est plus d'envie d'être là. Et pourtant, c'était des distances, on va dire, correctes. Hein. C'était que des 50 km. Hein. Je sortais de la CCC. Tu vois, je sortais de la CCC. Tu fais un 50 km presque 8 mois après. Puis au bout du 30e, tu disparais, quoi. Tu disparais, quoi. T'as pas envie d'être là, quoi. Et pourtant, c'était dans mon pays, c'était magnifique, mais t'as pas envie d'être là, quoi. Tu te dis, qu'est-ce que je fais là, quoi? Donc, ben, tu mets les clignotants et malgré qu'il y ait des gens qui t'encouragent, tu dis, non, non, aujourd'hui, je ne fais pas plaisir, donc ça n'a aucun intérêt, mais aucun.
Ouais, tu te dis même pas,
Après,
je vais
ouais.
finir, quoi, histoire de finir, quoi. C'est
Non, c'est ça, ouais, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Tu reviendras, voilà, tu vois, par exemple, ben, tu abandonnes, tu reviendras. Et ça se passera bien, quoi. Voilà, ça sert à rien. Je veux dire, les courses, ça ne vont pas. Je pense qu'il n'y a pas spécialement de honte à mettre le clignotant. Voilà, faut être humble face à l'instant présent. Et puis, tu te dis, ben, c'était pas le jour, c'était pas le jour. Et puis, tu recommenceras. Hein. Il n'y a pas de souci. Ça peut être, tu vois. Puis après, j'ai même pas cherché globalement les raisons de l'échec ou quoi que ce soit. À ce moment-là, c'était pas le jour, quoi. Voilà, c'était pas le jour. Ouais, et après, j'ai eu un abandon pour blessure quand j'ai fait ma première tentative sur l'UTCAM. Je sortais du syndrome de l'essuie-glace. J'étais pas suffisamment remis et dans les descentes, j'étais pas à l'aise. Et donc, ben là, c'est pareil, c'était un peu mix des deux. J'étais pas à l'aise, mais j'étais pas blessé. J'étais pas à l'aise. Et comme je savais que le parcours allait de plus en plus être compliqué, ben, pour des raisons de sécurité, voilà, c'est plus pour des raisons de sécurité de me dire, ben, il te reste quand même 5 km, tu vas peut-être en chier, ben, on va peut-être éviter. Tu as réussi à gérer le syndrome de l'essuie-glace, on reviendra l'année prochaine, quoi. Je pense que la course, elle ne devrait pas disparaître, donc on reviendra l'année prochaine. Voilà. Donc voilà les 3-4 abandons que j'ai pu avoir sur les grosses distances.
Ouais, alors c'est rassurant quand même que tu dis sur le syndrome de l'essuie-glace parce que j'ai déjà vu des commentaires de gens et tout qui ça fait quand même partie des, je veux dire, des cochonneries quoi. C'est pas simple de s'en sortir de cette histoire-là.
Ah.
Et toi derrière, t'as réussi à enchaîner, t'as réussi à t'en remettre et à faire des grandes distances derrière. Alors je pense qu'il y en a quand même certains qui doivent ça doit donner du baume au cœur, tu vois, quand t'entends ça en fait.
Ah oui, non, ben après moi, globalement, je l'ai géré, c'était en 2000, je crois que c'était en 2016, ouais, 2016, je finis le Grand Trail du Stevenson dans les Cévennes, entre le Puy-en-Velay et Saint-Jean-du-Gard. Et à 200 mètres de la ligne d'arrivée, j'ai le genou il dit stop. Et 8 semaines après, je devais faire l'UTCAM, quoi. 8 semaines après, je devais faire l'UTK, mais donc ben, ça a été arrêt total de la course à pied parce que tu pouvais rien, mais je pouvais vraiment rien faire. Au bout de 2 km, c'était une horreur. Et puis je me suis résigné à vraiment rien faire et puis à me présenter quand même à la course, mais disons à rien faire. Je me suis entretenu, j'ai nagé, j'ai un tout petit peu fait du vélo, je me suis beaucoup étiré, je me suis reposé. Je pense que c'est un signal d'alerte qu'il faut pas négliger pour le corps. Et puis, ben, le corps te dit, ben, je vais t'arrêter pendant un petit moment, mais arrête-toi. Parce que si tu t'arrêtes pas maintenant, ben, je vais t'arrêter définitivement, quoi. Voilà. Donc, j'ai plutôt tendance à écouter les appels de mon corps qui me dit, vas-y, mollo, préserve-moi et je pourrais t'amener un peu plus loin, quoi.
Et donc finalement, ça sonne comment un syndrome de l'essuie-glace? Parce que, alors j'avoue, moi, j'ai la chance pour l'instant, tu vois, je touche tout le bois que j'ai autour de moi, j'en ai pas beaucoup, mais je touche. Finalement, c'est quoi? C'est du repos? Il y a du
Ah, moi,
kiné?
c'est. Ouais, moi, alors, moi, je l'ai. Alors, je suis pas un adepte des médecins, donc je suis pas un très, très bon exemple, attention, j'ai tendance à un peu à les fuir. J'ai un peu écouté deux trois conseils, et puis voilà, moi je me suis fait beaucoup d'étirements, du repos, hein, voilà, de la marche à pied. Cette année-là, en plus, j'étais parti en vacances du côté de la Bretagne, donc au lieu de courir, au lieu de découvrir la Bretagne en courant, j'ai découvert en marchant. Et puis voilà, j'ai fait du renforcement musculaire pour pas trop perdre pendant cette période d'arrêt total. Et puis globalement, au bout de, on va dire, ouais, 12 semaines, ça a totalement disparu. Voilà. Et ça a totalement disparu après, juste après l'UTCAM que j'ai arrêté parce que j'avais une sensation, c'est-à-dire que tu es focalisé sur cette douleur au genou, tu te dis, elle va revenir, elle va revenir. Donc pendant que j'ai fait la course, tu regardes que ton genou, quoi. Tu regardes même plus où tu mets les pieds, tu dis, tu vas tenir, quoi. C'est ça qui me faisait un peu suer, c'est que globalement, ça allait. Mais tu n'étais pas à l'aise. Et après, au bout de 4 semaines après l'UTCAM, ça s'est totalement résorbé. C'est jamais revenu, quoi. Aujourd'hui, c'est jamais revenu, quoi.
Je me dis quand même, t'arrêtes pendant 12 semaines. Quand on regarde ton compte Instagram et quand on regarde le volume d'entraînement que tu racontes, je me dis quand même, ça doit être dur, non? Enfin, comme tu...
Ben ouais, ben c'est un peu ce que je t'ai dit, c'est que en fait je m'arrête, oui, je m'arrête sur la pratique, je m'arrête sur la pratique de la course à pied parce que c'est totalement nocif sur le sujet. Je suis un piètre nageur, mais j'ai la chance de vivre au bord de la mer, donc tu vas nager un petit peu, tu te fais ton kilomètre ou tes 2 km si tu es en forme, tu fais de la marche à pied, tu fais du vélo parce que le vélo c'est vachement bien pour ce genre de rééducation. Donc voilà. Et en fait, sportivement, tu t'arrêtes jamais. Tu t'arrêtes jamais, mais tu t'adaptes. C'est-à-dire, il y a une partie qui est totalement nocive pour faire résorber ce problème. Et bien, tu la squeezes et tu n'insistes surtout pas. Tu n'insistes surtout pas.
Oui, c'est-à-dire que t'écoutes ton corps, tu dis bon, tant que mon corps me dit qu'il y a un
Ah oui.
problème, je l'écoute, quoi.
Ah ouais, c'est clair. Là, il y a pas sur ce sujet-là, de toute façon, honnêtement, un vrai syndrome de l'essuie-glace, je pouvais. Tu n'as pas de douleur dans la journée. C'est totalement sournois comme blessure parce que tu cours, tu marches, tout va bien. Disons, tu marches, tu descends les escaliers, tu les montes, tu peux marcher vite, ça va. Et puis tu cours 2 km, au bout de 2 km, c'est un coup de poignard dans le genou, quoi. Mais tu peux plus courir, quoi. Ouais. Quand je dis le syndrome de l'essuie-glace, pour moi c'est ça, quoi. C'est un coup de poignard dans le genou et tu peux pas courir. Tu peux pas courir, c'est pas possible. C'est au bout de 2 km, c'est le fameux tendon, hein, il est tendu comme une arbalète et puis c'est impossible, quoi.
Est-ce que t'as fait d'autres blessures d'ailleurs? Parce qu'avec le kilométrage, bon, il y a un comment ça s'appelle? Il y a un débat entre les médecins qui disent que trop courir, ça, on se blesse, et que d'autres qui disent, c'est en courant que finalement, son corps fonctionne mieux. Tu sais, c'est mon médecin, quand je lui dis, je vais courir un marathon, il me dit, oui, mais allez pas monter au-dessus, vous allez vous blesser.
Ouais,
Tu t'es beaucoup
faut pas
blessé,
qu'il vienne
toi?
me dire ça parce que, ah non, globalement, ouais, j'ai une douleur récurrente à la cheville mais qui est totalement ingérable parce que c'est plus de l'arthrose qu'autre chose. Donc, bon, là, je sais que les articulations souffrent. Globalement, non, hormis une grosse blessure sur une chute, non, non, on va dire des blessures de coureur. Si, ah si, erreur. Erreur. L'année dernière, je pense que le corps était fatigué. Lors d'un entraînement, j'ai eu une énorme pointe au mollet droit. Je devais participer à l'hivernal des Templiers. Je me suis pointé au départ, mais la douleur, elle est revenue au bout de 200 mètres. Et j'ai même pas fait le, je suis même pas sorti de la couvertoire. On est rentré dans la couvertoire, on est ressorti, j'ai dégrafé mon dossard, les gens m'ont regardé, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, j'arrête, hein, je peux pas, de toute façon, c'est pas possible. Donc, je vais pas partir sur 70 km, sur l'Astragale, pour souffrir, quoi. C'est pas possible. Donc, voilà. On va pas. On... Il resterait 5 km. Je vous dirais oui, je vais les finir. Mais là, on part pour 70, donc on va pas abuser, quoi.
Et
D'autres courses à faire.
voilà, oui, effectivement, parce que finalement dans l'année, tu fais quoi? Tu privilégies. Alors bon, cette année c'est vraiment particulier, on en parlera tout à l'heure, mais parce que c'est quand même, je crois que chacun s'adapte et puis on sait pas trop comment 2021 va se passer. Mais sur une année, tu préfères quoi? Faire deux trois grosses courses ou t'es un boulimique en disant dès qu'il y a plein de dossards à droite à gauche, je vais les chercher ou comment t'envisageais un peu les choses? Parce que en plus avec les quand on prépare des 130, 140 km, je pense qu'il y a une stratégie quand même à adapter ou c'est un petit peu au feeling.
J'aurais tendance à dire que c'est au feeling. Bon, après, c'est pas tout à fait ça, parce que je mets les choses sur papier, hein. Il est certain que ces 3 dernières années, j'avoue que j'ai été peut-être un peu boulimique des longues distances. Ouais. Non, non, mais faut pas se voiler la face sur le sujet. Je pense que j'ai été boulimique sur les longues distances. Tu te mets un objectif parce que tu as un objectif personnel chaque année, tu vois, tu as un joli objectif personnel. Et puis des fois, il y a d'autres courses qui viennent se greffer, puis des copains qui te disent, tu viens avec nous, tu vois. Il est certain que sur une année, j'ai une course qui m'est personnelle. C'est-à-dire que là, c'est la mienne, entre guillemets, je me mets dans ma bulle et je vais me la faire tout seul et c'est à moi. Après, le reste, elles viendront s'y mettre de telle façon que ben, c'est plus dans l'échange et dans le partage. Voilà. Je vais plutôt privilégier de faire même ne serait-ce qu'une longue distance, mais de la partager avec quelqu'un. Voilà. Tu vois, cette année, disons, cette année, en mai, je devais partager l'Ultra de Lozère avec mon fameux binôme, c'était son cadeau d'anniversaire. On devait passer 2 jours dans les Cévennes à courir 2 fois ces 4 km. Par contre, j'avais comme objectif de faire la TDS. Voilà. Et l'année d'avant, j'avais comme objectif perso de faire l'ultra tour du Beaufortais. Bon, c'est vrai qu'entre-temps, j'ai décidé de faire un triathlon. Mais disons, juste après, j'ai décidé de faire un triathlon. Mais c'était un autre objectif totalement démesuré. Mais bon, c'était super, quoi.
Ouais, non, mais c'est amusant l'histoire du triathlon parce que je pense qu'il faut le raconter parce que c'est pas un triathlon, c'est pas un petit triathlon dans lequel tu t'es lancé en plus,
J'ai toujours, alors comme je suis un amoureux des longues distances et des gros efforts, ouais, je me suis lancé le défi de l'année dernière de faire le Ventoux Man, quoi. Voilà. Sachant que j'étais incapable de nager 2 km, quoi.
Et le
Et je me
Ventoux-Man, il fait combien?
préparais. Il fait 2 km de natation, 90 de vélo avec l'ascension du Mont Ventoux. Et puis un petit trail à 1 500 mètres d'altitude, de 21 km.
Ouais, ça fait alors c'est des ça fait avec le dénivelé effectivement, je sais pas si on aurait un équivalent par rapport à des Ironman, c'est une sorte de Half Ironman mais avec du en trail et avec du dénivelé quoi. Hein.
Voilà, ouais, c'est un peu un mix. Je crois qu'il en existe un aussi du côté de l'Alpe d'Huez, je crois. Je crois que c'est à peu près le même principe. Il nage dans un lac, il monte à l'Alpe d'Huez et puis après il court au-dessus à l'Alpe d'Huez, quoi.
Ouais, et puis
Donc c'est à peu
alors dans les
près.
Pyrénées aussi, il y a un truc un peu monstrueux, un peu dans ces genres-là, là, qui était dont j'ai perdu le nom et je m'en excuse tout de suite parce qu'il y a un auditeur en plus qui l'a fait cette année, donc où il y a un espèce de truc très monstrueux aussi, tu sais, avec beaucoup de nage, beaucoup de dénivelé, etc. Des trucs
Ben,
vraiment.
ben c'est sur la base, je crois, des Norsemen, là.
Oui, voilà, c'est ça, ouais.
Voilà. Alors, sauf que le Norseman, c'est la distance Ironman. Alors, et moi, j'ai fait, on va dire, un semi-Norseman, quoi. Voilà. Mais bon, pour une découverte, c'était une sacrée découverte, quoi. L'entraînement, c'est surtout l'entraînement, quoi. L'entraînement, honnêtement, j'admire les triathlètes parce que c'est une charge d'entraînement qui est hallucinante.
Ouais.
Voilà.
Et tu sais quoi,
Bon,
mais le pire, c'est que j'ai longtemps dit que j'allais pas faire d'Ironman, que je voulais pas aller là-dessus. Et je l'ai annoncé il y a quelques jours, mais ce sera mon objectif 2023. Alors, je me laisse un peu de temps pour préparer parce que j'ai un peu le même problème que toi. Moi, tu vois, c'est la natation, c'est un truc. Alors toi, t'habites au bord de la mer, je me dis, t'es quand même beaucoup plus avantagé que moi. Mais moi, la natation, j'ai fait un swimrun l'an dernier, et mon partenaire de swimrun se rappelle m'avoir vu galérer hein, fortement dans la nage, nager de travers, pas partir pas prendre la bonne direction, enfin des choses comme ça. Et je me dis là, il va falloir passer vraiment beaucoup de temps dans l'eau. Mais c'est vrai que ce que tu dis, hein, c'est que c'était le cumul des trois sports qui me semblait vraiment un truc.
Non, mais tu vas voir que tu vas arriver à du temps d'entraînement qui est colossal, colossal. Je faisais, alors bon, l'année dernière, j'ai fini le Beaufortin en juillet et le Ventoux était en septembre, donc je me suis entraîné pendant 2 mois. Donc je me suis entraîné uniquement sur la natation et le vélo. J'ai oublié la course à pied, puisque je me suis dit, une fois que tu es en haut du Ventoux, tu devrais arriver à t'en sortir. Je suis parti comme ça. Hein.
Et ce fut le cas ou rassure-moi.
Ah oui, ce fut le cas. Oui. Le plus dur, c'était de sortir de la base nautique à côté de Bolène. L'idée, c'était surtout ça, sort de la base nautique de Bolène, arrive en haut du Ventoux, et après ça devrait être terminé. Quoi. Une fois que tu as franchi le Ventoux, tu devrais rentrer tranquillement. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais c'est vrai que je suis à m'entraînant que sur deux disciplines, sur le vélo et sur la natation, j'étais à 18 heures d'entraînement par semaine. Et même des fois en ultra, je monte pas assez tôt à ces durées-là. C'est ça qui est fou. Quoi. C'est, même si je m'entraîne pour un 140, j'ai du mal à monter à 20 heures d'entraînement par semaine. J'ai du mal.
Mais
donc
ouais. D'un côté, j'ai beaucoup de mal, mais tu l'as dit au départ, hein, c'est-à-dire que l'entraînement sur des distances comme ça, c'est finalement c'est des gros blocs le week-end hein, que tu as placé,
oui,
faire des grosses sorties le week-end. Hein.
Tout à fait. Parce que on va dire que la semaine, tu vas faire des sorties courtes et un peu plus punchy, tu sais, pour essayer de garder un tout petit peu de vitesse. Parce que bon, quand tu fais des longues distances, tu perds un peu ta vitesse de course, quoi. Hein. Et puis bon, tu travailles un peu ce qu'on appelle le dénivelé ascensionnel, quoi. Tu travailles un peu de côte, quoi. Donc des côtes longues. Donc les séances sont pas très importantes. Hein. Tu restes sur, comme je t'ai dit, tu restes sur une heure et demie, quoi, hein, en semaine. Donc c'est globalement c'est facilement casable dans ta semaine. Bon après, tout dépendra des métiers, mais comme moi, c'est quand même un métier où je fais plus de bureau qu'autre chose. J'ai quand même cette chance-là de pouvoir la placer où je veux. Et puis en plus, en habitant dans le sud, tu as quand même des conditions climatiques qui, même le soir, s'il fait nuit ou il ne fait pas non plus des temps exécrables, donc tu peux toujours sortir.
Oui, tu as l'avantage qu'il n'y ait pas beaucoup de jours de pluie à Marseille, effectivement.
Tout à fait.
Ça fait partie des choses. Mais moi, bon, tu sais, en Auvergne, on n'a pas beaucoup de jours de pluie non plus. On a plus de jours de pluie, on n'a pas beaucoup d'eau, mais on a plus de jours de pluie. Ça, c'est bon, c'est un truc, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est un avantage, hein, quand même, ces histoires de conditions météo, hein, parce que ça joue, hein, franchement. Toi, quand on regarde tes photos, de toute façon, on a l'impression qu'il n'y a jamais de nuages. Tu vas pas me faire le coup des Marseillais qui me disent oui, mais nous, on sait pas ce que c'est les nuages, quand même. Hein, tu vas pas me faire ce coup-là. Mais...
Ah, mais de toute façon, je suis pas Marseillais, donc je te ferai pas ce coup-là. Même si j'y vis, je ne te ferai pas ce coup-là. Non, non, bien sûr, là, tu vois, aujourd'hui, il fait gris, il y a un peu de vent. Mais l'avantage, c'est que voilà, il n'y a pas trop de pluie, donc tu peux facilement enfiler ta veste, même s'il fait froid, et aller courir. Tu te couvres un peu bien, et puis tu y vas, quoi. C'est vrai que courir sous la pluie, c'est quand même. Bon, voilà, c'est. Ça forge le mental, hein, parce qu'il faut, hein, parce que mon premier ultra, j'ai passé 18 heures sous la pluie, donc. Donc il faut aussi s'astreindre à faire des sorties un peu difficiles pour se préparer, quoi.
Tu disais que t'es des Cévennes, hein, parce que on va dire un petit mot quand même. Tu vas y courir souvent. Enfin, t'as dit que t'avais fait le Stevenson, oui. Donc qui est le chemin mythique, hein, on va dire, hein, quand même. C'est le chemin mythique. C'est un chouette terrain d'entraînement quand même, ce coin des Cévennes là, hein, prêt pour aller courir.
Alors le truc c'est que c'est pas très très haut, hein. Tu culmines à peine à 1500 mètres d'altitude, mais tu peux te faire de jolies bosses. Et puis après, du coup, quand tu peux t'entraîner du côté de Florac dans les gorges du Tarn, tu peux facilement monter sur les trois cosses et te faire bien mal aux jambes. Et en plus, il y a l'avantage, c'est que tu peux avoir du technique et du roulant. Donc c'est un bel endroit. Après, si tu aimes la solitude, eh ben, tu seras pas trop embêté par le monde. Donc, non, c'est pas parce que c'est ma région, mais il y a de belles courses. Il hein. y a le trail du bout du monde au Vigan qui est magnifique. Hein. Ou tu as l'Ultra de Lozère aussi qui est au niveau de Saint-Imier, qui sont de très très belles courses. Hein.
C'est vrai, hein. Rappelons quand même que la Lozère, moi j'ai de la famille en Lozère, donc je connais un peu le coin, et c'est quand même le département le plus vide de France, hein. Il y a 70 000 habitants, je crois, si mes souvenirs sont bons, donc par rapport à une ville comme Marseille, c'est juste, c'est vrai que c'est désert, quoi.
C'est clair.
Mais c'est vrai que, et après, alors les gens sont très surpris quand même, alors Lozère l'été c'est très très chaud, l'hiver froid, neige, hein, plus on parle même pas des moments où il se met à pleuvoir, où ça devient, les gardons montent avec l'eau qui monte très
Ouais,
très vite, hein.
cataclysmique, oui.
Voilà, donc c'est quand même des conditions, hein, ça paraît pas comme ça, c'est un bout de coin au milieu de la France, enfin pas au milieu de la France, qui est un peu plus bas que la France, que le milieu, mais... il faut pas y aller à la légère. Moi, j'ai envie de dire quand même, hein, sur ces terrains. Moi, j'ai fait de la randonnée quand j'étais gamin, d'avoir été malade sur ces chemins, tu sais, vers le Montégoal et compagnie là.
Oui, tout à fait.
Et vraiment très malade parce qu'il y fait très chaud, c'est pas si simple que ça, etc. Et
Et puis, et c'est aride,
oui.
c'est sec, tu trouves pas beaucoup d'eau. Bizarrement, il y a pas trop de. Si tu te promènes sur l'Écosse, tu n'auras pas d'eau. Tu n'as pas d'eau. Tu es obligé de descendre dans les gorges du Tarn pour trouver de l'eau, quoi. Si tu restes sur l'Écosse, tu n'auras rien, quoi. J'ai tendance à dire que c'est un peu hostile. Hein. Comme je dis, en plus, il y a la solitude. Non, c'est pas parce que c'est pas haut qu'il faut surfer le truc, quoi. Tu peux te retrouver en galère. Hein. Quand tu fais l'ascension du Mont Aingol, les 4000 marches, du côté de Valrhog, voilà, c'est une belle montée, quoi. C'est pas tant la montée, parce que quand tu te sens à taper la montée, il faut refaire la descente, et la descente, elle est très très longue, très très longue.
Voilà, c'est pour
Voilà.
ça que allez faire un tour dans les Cévennes quand vous voulez des terrains d'aventure un petit peu qui vous changent, etc. Parce que c'est vrai que je pense que c'est un peu méconnu, hein, ça fait partie des zones un petit peu qui méritent d'être découvertes, hein. Il y a tellement de choses à voir, de variétés. Et puis, enfin la Lozère, dans le sens général, j'en parlais l'autre jour avec un Lozérien, il disait, mais de toute façon, la Lozère est tellement différente entre le nord, le sud, les différents, que si on voulait traverser la Lozère, il y aurait un sacré défi à se faire.
Mais tu sais que j'en avais une
Oui? Ah, je sais pas.
que j'aurais dû faire pas ce week-end, le week-end prochain. J'aurais dû traverser les Cévennes de part en part. J'avais prévu de partir en autonomie du Vigan jusqu'à Villefort et passer par les trois points, on va dire, référentiels des Cévennes, c'est-à-dire le Mont Aigoual, le Finiel et le Pic Cassini.
Et ça se faisait combien de kilomètres et de
Ça aurait
dénivelé?
dû faire. Alors, comme je ne l'ai pas fait, théoriquement, ça aurait dû faire 135 km, je crois. Et à peu près 6 000 mètres de dénivelé positif.
Oui, un sacré parcours quand même, hein. Ça fait une belle trace, hein.
Ah, ça faisait une belle trace. Ouais, la trace est belle. Ouais. La trace est belle et bon, j'ai bon espoir de la faire, hein, parce que c'est un projet qui me tient à cœur, parce que on connaît le Stevenson qui est, on va dire, une partie, on le traverse longitudinalement. Là, on l'aurait traversé en diagonale et on serait parti des Cévennes pour arriver encore dans les Cévennes. Donc, ça aurait été un beau périple. Et puis je voulais la faire l'hiver parce que ça peut être, voilà, ça aurait pu être un peu musclé, quoi.
Non mais c'est ça le caractère cévenol aussi. Hein. Il faut pas croire, hein. Ils sont durs à cuire, hein, dans ce coin-là, et ça s'explique aussi par le terrain, par tout ça. Mais on se dit que finalement pour le trail, c'est de belles qualités, hein, d'y aller là-dedans. Hein.
Ah, ben disons que ouais, en termes de tempérament, on n'est pas facile, quoi. On est un peu rude, on est un peu brut, quoi. Comme on dit chez nous, on est un peu des brutes. Mais bon, comme j'ai tendance à le dire, au niveau de l'histoire, on a quand même tenu tête un peu au dragon de Louis XIV pendant les guerres de religion. Donc, il n'y a pas grand monde qui l'a fait, quoi.
Oui, puis faut regarder l'histoire du protestantisme, c'est vrai, etc. Et quand même, y a des trucs incroyables dans l'histoire, hein, de cette région.
Voilà.
On va pas faire un cours d'histoire aujourd'hui, mais c'est vrai que ça mérite, hein, pour ceux qui s'intéressent un peu à ces questions-là, de regarder un petit peu ce qui s'est passé. Moi, je redécouvre ça un petit peu parce que mon père est là-bas et puis j'avais toujours cette image de, tu sais, de la croix, etc. Je me disais, mais toujours pourquoi est-ce qu'ils sont autant attachés? Et puis quand j'allais là-bas, je dis, mais pourquoi il y a autant ce truc-là? Et puis en creusant petit à petit, après on découvre, hein, ce caractère-là. Et je revois une vieille tante, tu sais, qui marchait l'hiver pour aller jouer aux cartes, 3 vallées plus loin, tu sais. Je me dis.
Ah ouais.
Des
Il n'y avait
sacrés
pas
durs
le
à cuire,
téléphone.
hein.
Bizarrement, il n'y avait pas le téléphone. Ils étaient très isolés, mais ils faisaient attention les uns aux autres. C'est ça qui était. Ils prenaient toujours des nouvelles des uns des autres, malgré que le hameau il soit à X kilomètres. Voilà, c'était quelque chose de très très fort. Faire attention à l'autre, ne jamais le laisser seul. Ouais, c'est une grosse caractéristique.
Et qui finalement se retrouve aussi dans la course, hein. Mis à part quand t'es tout seul, bon, où là tu dis t'as ton projet, t'es dans ton monde, t'es tout seul, etc. Mais quand tu veux partir en équipe, etc. Finalement, c'est des qualités qui sont que tu retrouves, avec lesquelles tu te retrouves dans la course.
Ah oui, non, mais comme j'ai dit, le Stevenson, par exemple, je ne l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait avec un ami. Et puis j'ai tendance, voilà, je cours avec mon binôme, on se lance des défis ensemble. Puis bon, il y a des gens des fois qui ont envie de courir avec moi. Et une fois que je rentre dans ce schéma-là, je sors du mien, en fait. Le mien, mes propres, mais à partir du moment où on me demande, on va dire, pas de l'aide, mais plus du soutien, et puis voilà, ben ouais, je reste focalisé là-dessus, et peu importe le temps qu'on va y passer, peu importe comment ça va se passer, la seule chose que je sais, c'est de me préparer mentalement à faire face à tous les problèmes, quoi. Voilà. C'est surtout ça, être. Quand quelqu'un te fait confiance et te demande, on va dire, de l'aider, de le soutenir, je pense que le plus important, c'est que moi, je sois prêt mentalement à affronter toutes les situations. Parce que quand tu fais de la longue distance ou ne serait-ce que de la moyenne, ben, tu ne sais pas par quoi tu vas passer. Donc, c'est très, très important, quoi.
Est-ce que tu as eu des fois des... Alors, je le dis parce que je pense aussi notamment au fait que tu as un loup dans tes icônes de ton nom, hein. C'est, j'allais dire, est-ce que tu as fait des rencontres un peu inattendues, hein, dans ta vie?
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais, je sais plus, c'était 2016 ou 2017, j'ai fait la montagnarde et j'ai croisé un loup. Il était 1 h du matin à peu près et j'ai croisé un loup dans une ascension. Alors au début, comme c'était tôt dans la nuit ou on va dire tard dans la journée, je me suis dit qu'il y avait quelques heures qu'on était dehors, je me suis dit tu as halluciné, quoi. Et j'ai rattrapé un groupe au bout de quelques kilomètres. Ils se sont arrêtés, j'ai pris le temps de manger et de discuter avec eux. Et je leur ai posé la question, est-ce que vous avez vu la bestiole? Ils m'ont dit, mais toi aussi, tu l'as vu le loup. Alors j'ai dit, voilà, cette fois-ci, t'es pas fou, quoi. Parce que ouais, mais là, par contre, j'ai pas été très très rassuré, quoi. Parce que j'ai l'habitude de croiser des sangliers, des cerfs, des choses comme ça, même des vaches, des fois. Mais le loup, j'avoue que là, j'ai pas été très 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 bien, quoi.
Et finalement, il y a des consignes sur des courses comme ça. Si on vous dit vous croisez, vous pourrez croiser un loup ou un autre animal, on vous donne des consignes sur des courses ou de réactions ou enfin je sais pas, enfin, des
Bah,
au briefing.
sur le briefing, globalement, non. On nous demande surtout de faire attention quand on traverse des pâturages, par exemple. Parce que ça peut arriver que tu traverses des pâturages, par exemple, dans à l'UTMB, quand tu es du côté suisse, tu traverses des pâturages où il y a des vaches. Donc, il faut y faire un peu attention, quoi. Surtout à refermer les portes, les choses comme ça, quoi. Mais au niveau des animaux sauvages, non. On ne demande pas. Alors, c'est vrai que Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a eu vraiment des courses qui ont croisé des animaux sauvages comme moi j'ai eu la chance. Parce que je dis que c'est une chance, parce qu'on parle souvent du loup, mais voilà, j'ai eu la chance d'avoir un de très très près, quoi. Donc c'est aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait des expériences sur le sujet trop importantes, quoi. Alors, déjà, il n'y a pas eu d'attaque, donc déjà, on va se rassurer, mais. Donc, à ce sujet-là, on nous demande plus de faire attention à l'environnement dans lequel on évolue, parce que, on peut traverser des zones de Natura 2000, des choses comme ça, donc on a tendance à bien nous aiguiller sur le sujet, mais au niveau des animaux sauvages, on ne nous dit rien, quoi. Mais par contre, moi, je m'astreins à m'entraîner la nuit. Avec dans l'esprit de croiser des animaux pour gérer, tu vois, pour être capable de gérer cette rencontre-là, quoi. C'est-à-dire que, voilà, de voir comment peuvent réagir les bêtes, bien qu'elles ne réagissent pas toutes de la même façon, quoi.
Parce que alors, dans les calanques, bah, enfin, tu vas t'entraîner de nuit dans les calanques, par exemple, c'est ça, c'est tu vas
Oui,
courir, voilà.
ça peut m'arriver. Oui.
Et tu croises quoi alors comme animal en fait?
Bon, dans les calanques, tu croises surtout les sangliers, quoi.
D'accord, ok.
Beaucoup beaucoup de sangliers, quoi. Ouais, parce que aujourd'hui le sanglier commence à gagner les villes.
C'est vrai.
Non mais c'est vrai. Puis en plus il y a des gens qui s'amusent à les alimenter, donc un jour ça leur fera droit.
Oui, puis le sanglier. Alors, quand tu vas courir dans les Cévennes, les sangliers, tu peux en croiser un bon paquet. Il faut réagir comment si tu vois un sanglier? Tiens, ça, c'est un truc. Moi, j'en ai pas un sanglier dans mon coin, là, où, enfin, là où je vais courir, j'en ai pas trop. Mais comment je fais si je croise un sanglier? C'est quoi la réaction à avoir?
Globalement, moi, j'ai tendance à leur parler. Tu vois, parce que le sanglier, bon, il a pas peur, il a pas de prédateur, donc il a peur de rien. Le seul prédateur qu'il peut avoir, on va dire, c'est l'homme, hein. Parce que même un loup n'attaquera pas un sanglier, parce que un loup tout seul ne l'attaquera pas. Alors, le sanglier est une bête sauvage, et s'il n'est pas, on va dire, agressé, il aura plutôt tendance à fuir.
D'accord.
Il aura plutôt tendance à fuir. Il va t'observer. Il va t'observer parce que moi, j'ai eu des expériences de croiser ce qu'on appelle un jargon de chasseur des solitaires, c'est-à-dire des vieux mâles bien gaillards, hein, qui dépassent largement le quintal. Ils t'observent, ils s'arrêtent. Ils t'observent, tu les regardes, tu peux leur parler. Puis au bout d'un moment, ça va.
D'accord.
Et après, quand il est un peu effrayé, il va te couper la route, mais voilà, ça va être un moment très furtif, quoi. Très furtif. Après, il reste le cas épineux de la maman,
Ouais.
avec ses petits marcassins. Mais là, c'est pareil. Tu lui parles, tu fais comprendre. Je pense que, bon, je ne dis pas qu'il me comprenne, mais. Non, mais je pense que l'animal ressent si tu as peur ou si tu n'as pas peur.
Ouais.
Je pense qu'il le ressent. Et comme moi, bon, ben, j'ai été un peu habitué à vivre avec un peu tous ces animaux, ils ont plutôt tendance, ben, voilà, à changer de chemin. Puis moi, j'aime bien les observer. Donc, comme je te dis, tu le sais, j'ai des Cévennes, j'ai l'aspect un peu de se poster, d'attendre et d'observer. Quand tu entends un bruit, ben, tu ralentis ta course. Tu vois, c'est pour ça que je cours jamais avec de la musique,
Ouais.
ou très rarement, parce que j'aime bien écouter, m'imprégner des bruits. Donc le moindre bruit peut être intéressant. Tu peux tomber sur un cerf, tu peux tomber sur une. Bon, pas ici, mais je veux dire dans d'autres secteurs, tu peux tomber. Les gars qui vont dans les Alpes, ils tombent sur des bouquetins, ils peuvent tomber sur des chamois. Bon, voilà. Donc c'est intéressant d'être aussi à l'écoute du moindre bruit. Et puis ça te permet de te poser, d'observer, et en fait, l'animal, tu le vois évoluer. Alors oui, tu vas perdre ton chrono, mais on n'est pas là, comme je t'ai dit, on n'est pas là pour faire du chrono, quoi. On est là pour profiter de là où on évolue, quoi.
Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que alors ma femme, tu vois, moi sur les territoires où je cours, elle marche et elle a vu des cerfs. Et moi j'en ai jamais vu. Alors pourtant j'ai passé mais je sais pas combien d'heures en comparaison avec elle. Et je me dis peut-être que ça vient aussi de la manière dont on se déplace. Peut-être qu'il y a des choses hein,
Ah ben,
où parce qu'elle les a vues en
c'est.
pleine journée en plus, tu sais, c'est
Ah
incroyable.
oui, non. Non, mais ce que je te dis, c'est en fait, comme on court, on fait du bruit. Donc l'animal nous entend arriver. Alors que si tu marches, on va dire, si tu es seul, donc déjà en étant tout seul en marchant, tu feras beaucoup moins de bruit. Ouais, moi j'ai eu la chance de tomber une fois sur un cerf. Mais bon, il faisait nuit noire. Hein, il était sur la route, je coupais la route en montagne. Donc en fait, on s'est retrouvés nez à nez tous les deux. Mais elle a eu la chance de voir un tel animal parce que c'est très très impressionnant. Quoi.
C'est sûr, ça fait partie des animaux impressionnants. Moi, ce qui me fait peur la nuit, enfin ce qui me fait peur, ce qui me rend pas tranquille, c'est les. Mais ça, c'est à cause de mes lectures, Pagnol et compagnie. Tu sais, c'est les chouettes, les trucs comme ça. Déjà dans les Cévennes, ça me faisait peur d'entendre les chouettes, les bruits de ce genre-là.
J'adore ça. Ah non, mais c'est vrai, voilà, des fois on me dit ouais, tu t'as pas peur. Non, c'est vraiment des bruits parce que c'est des animaux. Voilà, c'est des animaux inoffensifs. On a un peu diabolisé les chouettes, certes, mais c'est totalement inoffensif, quoi. C'est tellement beau à voir, quoi. Moi, j'ai eu la chance une ou deux fois de croiser des chouettes effraies ou même un grand-duc. Un grand-duc qui s'envole parce que tu le déranges. C'est superbe. Tu peux pas le filmer. Tu peux difficilement l'expliquer. Tu vis la fraction de seconde la fraction d'une seconde du moment, quoi. Moi, courir, de toute façon, courir la nuit, j'adore ça. Donc.
Bon, tant qu'on est sur la nature, parce qu'il y a quand même un truc qu'on doit dire aussi, c'est le fait que tu cours en ramassant les déchets. Ça fait c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu fais j'ai l'impression depuis très longtemps ce truc-là.
Ah, je le fais depuis toujours. Depuis toujours. C'est quelque chose que c'est pas que mes parents m'ont inculqué, mais en fait mon papa faisait des courses d'endurance de cheval, des 24 heures à cheval, donc on était sur des zones de bivouac, des choses comme ça. Donc puis bon, c'était un peu les époques un peu à la bonne franquette, hein, c'était avant les années 80, donc moi c'est des souvenirs d'enfance, hein. Donc et puis, on était très nombreux, hein, puisque c'était une grosse équipe. Ils faisaient tout le temps du feu, ils faisaient des bars, des grillades, des machins. C'était un vrai camping, hein, mais un camping furtif, hein, à l'instant T. Et j'ai des souvenirs de ma maman qui, quand on partait, il fallait qu'on laisse le lieu en l'état. Voilà, et ça m'est resté, quoi. Et donc, quand je passe à des endroits et à partir du moment où j'ai commencé à grandir, trouver des endroits où il y a des déchets, ça, c'est quelque chose qui m'insupporte parce que voilà, on a la possibilité dans notre pays de pouvoir profiter de notre environnement. Je parle à toute petite échelle, hein, de pouvoir en profiter. Ben, et on adore ces endroits parce qu'ils sont beaux. Et moi, je souhaite que ces endroits restent beaux, quoi. Au-delà de l'aspect on va dire écologique, qu'il faut vraiment pas polluer, quoi. Je veux dire, ce n'est qu'une question de respect de l'endroit où on est, quoi. C'est à minimum, on respecte c'est-à-dire qu'on utilise, on profite de l'endroit, laissons-le dans le même état pour les personnes qui vont venir derrière nous, quoi. C'est au-delà de l'aspect écologique qui est très important sur le sujet, mais je sais pas, quoi. Quand on est chez soi, on fout le bordel, mais à un moment, on le range, quoi. Voilà, je sais pas. Sinon, on vit dans un bordel innommable, quoi.
Oui, alors pourtant tu dis ça, mais dans le monde du trail quand même, il y a des polémiques, hein, sur et puis moi je l'ai vu sur des chemins où certains ils abandonnent quand même des trucs de gel, des choses comme ça. Ça doit t'insupporter.
Ça m'insupporte. J'ai eu fait des trucs où je ramassais, quoi. Je ramassais derrière les mecs. Alors il y en a deux. Ça dépend. Voilà, sur les longues distances. Tu vois, je m'aperçois que sur les longues distances, on en trouve très très peu. Tu vois, sur des 80, des 100, tout ça, on a tendance à. Déjà, on est moins nombreux. On est moins nombreux, tu vois, même sur l'UTMB, j'ai pas souvenir d'avoir ramassé moindre déchet pendant ma course. Mais plus la distance est courte, plus j'ai l'impression que le phénomène est présent, quoi. Voilà, alors il peut y avoir l'accident du gelé, attention, hein, le mec il va fouiller un truc, il peut le faire tomber, ça il y a, mais quand c'est récurrent, ça me gêne. Et c'est vrai qu'on en voit de plus en plus, Et puis après, j'ai tendance à dire que, alors ça c'est mon vécu, parce que j'ai tellement de kilomètres, mais c'est vrai que sur les courtes distances, on n'a pas spécialement utilité, quoi. Il y a des ravitaillements. Je veux dire, sur un trail de 20 km, t'as pas besoin de prendre 4 gels, quoi.
Oui, je suis assez d'avis avec toi parce que le dernier trail que j'ai fait, c'était un 13. Non, j'ai fait un 28 après, mais j'ai fait un 13, tu sais, au printemps dernier. Et j'ai vu quand même des gels par terre, etc. Je me suis dit, quand même sur du 13, les mecs, ils exagèrent, quoi.
Non, mais ouais, il y a des choses, j'hallucine, quoi. Sur 13 km, même si le mec il met 2 heures, bon, ça va, quoi. Il y a un ravitaillement, il est arrivé, il était alimenté, il a bien déjeuné, il est capable de faire son truc sans prendre un gel, quoi. Ça, tu peux en prendre un parce que on va dire, tu es à l'agonie et que ça peut. Mais te servir de ton gel pour t'alimenter sur une si courte distance, ça me paraît bizarre. Donc, bon. Après, ça, c'est mon avis personnel.
Mais c'est un débat qui est intéressant, cette histoire-là, parce que c'est vrai que je pense que c'est des trucs aussi où on copie, tu sais, où on dit ouais, faut prendre des gels, faut prendre ça, etc. Et puis il y en a plein, je pense, qu'ils expérimentent pas assez, tu vois. Ce qui est intéressant, ce que tu disais, d'expérimenter, de dire je sais qu'il faut que je mange ça, ça, etc. Les grains de raisin et tout, parce que finalement la découverte de ce que tu fais par la course et longue distance, c'est aussi expérimenter bah, comment tu fonctionnes.
Ah ben oui, totalement, parce que tu améliores des trucs au fil du temps. Au début, c'est particulier, mais au début, je partais avec une multitude de bouffe dans mon sac, quoi. Et tu t'aperçois que quand tu reviens, tu en as quasiment la moitié, quoi. Et pourtant, tu pars pour 20 heures, 30 heures, et tu as la moitié de ta bouffe dans ton sac, quoi. Et alors que tu as fait que manger au ravitaillement, parce que entre les ravitaux, ben, tu n'avais pas spécialement envie de manger. Et tu arrives au ravitaillement, tu as pris tes 5-10 minutes, tu manges et puis tu repars et c'est parti, quoi. Voilà, j'ai l'expérience, on va dire, basique, quand j'ai fait le Half Marathon des Sables, tu pars en autonomie totale. Donc tu dois optimiser ta bouffe, optimiser le machin. On ne te donne rien à part de l'eau. Je suis quand même revenu avec 1,2 kg de bouffe.
D'accord. 1 kg 200 de bouffe en plus que ce que tu avais prévu par rapport à finalement ta consommation.
C'est-à-dire, voilà, oui, tout à fait.
Alors c'est quoi? C'est que tu es économe en fait,
Toujours là,
mais.
toujours là. Non, mais attends, c'est le au cas où, tu connais,
Ouais.
connais pas le au cas où, quoi.
Ah,
C'est jamais, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Et c'est là que tu t'aperçois sur ce genre de course que, ben ouais, alors c'est vrai qu'il vaut mieux pas manquer parce que, bon, on se démerdera toujours parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à bouffer pour toi, mais si tu y vas en totale autonomie, ben, tu t'aperçois que ben, tu prends toujours trop, quoi. Tu prends quand même toujours trop, quoi.
Oui,
Et un kilo de bouffe sur le sac que tu portes pendant 4 jours, ça pèse. C'est très con.
ouais, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que je sais pas si t'as lu le livre de, alors je sais plus si c'est Grégoire Chevinard maintenant, je sais plus de prénom. Je suis médecin qui a de mon canapé la course la plus difficile du monde, qui parle justement de cette préparation, du poids, du nombre de calories qu'il faut emporter pour la course, comment on gère ça, etc. C'est vrai que il y a tout un tas de stratégies, c'est ce qu'il explique dans le livre, hein. Il y a tout un tas de stratégies diverses et variées pour y arriver. Et finalement, de se dire que tu reviens quand même avec beaucoup plus que ce que tu avais prévu, c'est que soit finalement t'es plus économe peut-être aussi que ce que tu pensais, ou peut-être que les conditions de course fait que t'as pas eu besoin, mais que ça te rassurait de les
Ouais,
avoir.
c'est plus de l'assurance. Voilà, c'est l'assurance tout risque de se dire, ben, si jamais tu as un coup de moins bien, ben, tu auras au moins de quoi manger, quoi. Parce que globalement, on a mangé normalement, moi j'ai mangé à tous les repas. Après, c'est peut-être parce que j'ai tendance à courir de façon très très empirique et plus au feeling que voilà, tu te dis ça, 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 c'est bon, et puis ça ira, quoi. Voilà. Et en fait, tu en prends trop, quoi. Il y a des gens qui sont, on va dire, beaucoup plus fins dans leur préparation et qui en fait optimisent bien mieux les choses que moi je peux le faire.
Oui, quitte après avec certains dérives. C'est ce qu'il raconte d'ailleurs dans le livre que les plus rapides se retrouvaient sans eau parce qu'ils calculaient à la limite ou tu sais pour être le plus léger
Ouais, bah.
possible, etc.
Ah oui, ça peut arriver. Après, sur ces courses un peu, on va dire, en autonomie, les gens, ils font surtout le pari sur le confort. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de tapis de sol. Voilà, ils font au plus léger pour avoir le sac le plus léger, quoi.
Je peux pas finir cet épisode sans te demander un truc parce que c'est quand même le secret de certaines de tes photos. Si on regarde ton compte Instagram, il y a alors la photo du tapis volant là de la semaine dernière. C'est comment tu fais tes photos? Parce que je suis sûr qu'il y a des gens ils vont regarder, ils vont être intrigués. On a chacun nos petites astuces de photos, etc. Tu fais quoi? GoPro, téléphone,
GoPro,
GoPro?
GoPro, GoPro,
GoPro,
GoPro
tu.
et surtout, alors hormis peut-être la dernière, celle-là, là, c'est du tapis volant parce que c'était un peu particulier, puis je voulais faire quelque chose de très sympa. Il n'y a quasiment pas de reprise. C'est à l'instantané, quoi. C'est-à-dire, je pose ma GoPro, je regarde un peu l'angle, et puis voilà, quoi. Le retardateur, et puis feu, quoi.
D'accord, donc tu poses la GoPro, tu te dis bon, je vais la prendre là, je pose le retardateur et je
Mmh.
cours en essayant d'être dans le cadre au moment où ça va déclencher.
Voilà.
C'est ma méthode aussi.
Ouais, c'est aussi simple que ça. Le tapis volant, il y a eu, l'histoire du tapis volant, il y a eu trois. Ouais, j'ai fait trois essais, quoi. Voilà, il y a trois essais.
Oui, bah c'est pas si franchement quand on regarde le temps que passent les influenceurs des fois pour arriver à faire trois photos où on voit pas leur pli un pli de gras, je me dis que finalement si tu fais que trois essais, c'est. C'est finalement assez rapide ton histoire.
Ouais, non, mais après, voilà, après, ce que j'ai envie, c'est que ça reste naturel, quoi. Voilà. Que ça, pour parler de mon compte Instagram, je veux que ça me représente, voilà, entièrement, quoi. Je veux pas être quelqu'un d'autre, c'est moi, quoi. Voilà, c'est la photo. À ce moment-là, j'ai décidé de faire cette connerie-là. Voilà. On fait celle-là, quoi. Bon, si tu vas plus loin, j'en avais fait une fois, c'était, j'avais trouvé un chauffe-eau coupé en deux. Elle est très très loin dans mon compte Instagram. Et j'avais fait une photo en faisant un remake de Rasta Rocket, quoi. Voilà, c'est des choses comme ça, quoi. C'est plus, voilà, moi je veux que ça reste un jeu, quoi. Comme j'ai pu te dire, j'ai eu la chance de finir un peu, on va dire, entre guillemets, ma carrière sportive collective dans le rugby, et on a toujours tendance à dire que le rugby reste un jeu, quoi. Mais un jeu à l'état pur, quoi. Donc il faut prendre plaisir. Pour jouer au rugby, il faut prendre plaisir. À partir du moment où tu prends plus plaisir, tu joues plus, quoi. Tu n'es pas là sur un terrain de rugby pour montrer qui tu es ou quoi que ce soit. Tu es là parce que tu te fais plaisir et parce qu'il y a des copains, et c'est tout, quoi. Après, la partie, je veux exister, ça ne rentre pas en ligne de compte dans ce sport-là, quoi. Donc, en fait, c'est un peu une continuité de façon individuelle. C'est-à-dire, ben voilà, c'est moi comme je suis, quoi. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de filtre, quoi.
Et je le dis hein, parce que on te voit avec sourire, faire des blagues, etc. Il y a des trucs. Mais quand on regarde en fait, on voit aussi qu'il y a beaucoup de préparation. J'ai envie de dire du renforcement. Je te vois même avec du TRX. Hein, tu fais aussi des choses comme
Oui,
ça.
tout à fait. Ouais.
Donc il y a ça paraît. On te voit toujours avec le sourire. Ça c'est un truc de toute façon, c'est clair. Mais on voit aussi qu'il y a quand même beaucoup de préparation, il n'y a pas que de la course, etc. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans ton entraînement. Et tu parles, tu dis que tu dis ton coach t'a dit, t'as vraiment un coach ou c'est toi
C'est
qui te
mon
coach?
cerveau,
C'est ton
c'est
cerveau?
mon cerveau, c'est mon pauvre cerveau, c'est pour ça. Non, non, il n'y a pas de coach, vous inquiétez pas. Non, non, c'est vraiment un échange entre moi, quoi. Entre le moi extérieur et le moi intérieur. Et à l'intérieur, je ne suis pas tout seul,
Ouais, t'es pas
je
tout
vous
seul.
rassure.
Et j'ai vu aussi un hashtag où tu dis
Il y a
que
du
j'aime de
bon.
moins en moins les gens. Ouais.
Aussi, ouais. Ouais, non, là, ouais. Surtout dans la période où on est, je commence à de moins en moins les aimer. Donc, bon, voilà. Mais par contre, ceux que j'aime, je les aime vraiment.
Eh ben, je trouve que c'est un très bon message pour finir. Tiens, allez, j'ai deux trois petites questions parce que j'ai toujours des gens qui me posent la même question, qui sont curieux, tu sais, ils me demandent un petit peu. Alors, s'ils regardent son compte Instagram, ils savent que niveau montre, parce que sur des distances comme ça, d'ailleurs, c'est toujours une question qui revient, c'est quelle montre tu as toi, et finalement, du montre qui tient on va dire la distance, quoi. J'ai un petit peu envie de dire.
Bah, moi, je suis Garmin depuis toujours parce que j'ai eu la première Fenix 3. Là, aujourd'hui, je suis sur la 5, la 5S Plus. Voilà. Et elle tient globalement entre 19 et 20 heures. Et l'avantage de la Garmin, c'est que tu peux la recharger tout en continuant à faire ton activité. C'est-à-dire, ben, tu la mets sur un chargeur et tu la mets au fond du sac et puis tu continues, quoi.
Tu continues à avancer avec quoi.
Voilà.
Tiens, chaussures, tiens, alors ça c'est un truc aussi. T'as une marque préférée, t'as des astuces ou des trucs comme ça?
Des marques préférées, non. La seule astuce que j'ai, c'est j'adapte la chaussure en fonction du terrain que je vais rencontrer. C'est particulier, c'est-à-dire ben, quand je me retrouve dans quelque chose qui est très, très rocailleux, très alpin, j'ai tendance à prendre la Sportiva parce que c'est des chaussures très robustes. Et qui tiennent la distance et puis qui sont très sécures au niveau du pied. J'ai tendance aussi, j'ai eu la chance de courir avec Scott aussi, qui sont des bonnes chaussures, mais ça c'est pour des, voilà, c'est pour du fort dénivelé, mais pas trop technique. Après je cours en Adidas, je cours en Salomon, donc et après ça va dépendre, voilà, ça va dépendre de la distance. J'ai pas de chaussures à proprement parler. J'ai même couru en Oka, je suis parti au Half Marathon des Sables avec des Oka. Pour la
D'accord.
bonne et simple, hein. C'est par rapport à la hauteur, ça nous permettait d'être un peu plus haut par rapport au sable. Voilà.
Oui,
Voilà,
stratégiquement, ouais.
c'est juste de la stratégie, quoi. Bon, après, j'ai couru avec, hein. Je ne me suis pas pointé au Half Marathon des Sables. J'ai pris mes Oka, le sort de la boîte, et puis on y va. Enfin, non, voilà. Je me suis un peu entraîné avec, quoi. Donc voilà. Non, j'ai pas de. J'ai pas. Alors j'étais un amoureux de Adidas. À l'époque, ils avaient la fameuse Riot, qui était une chaussure pour moi extraordinaire. Ils ont arrêté de la faire, hein. Ils ont ressorti un peu une gamme maintenant là, que je suis en train de redécouvrir tranquillement. Mais j'étais un amoureux d'Adidas parce que je trouvais que c'était des chaussures qui étaient super confort et super résistantes. Voilà.
Tiens, des équipements, en vêtements, tiens, des trucs, une marque de vêtements peut-être, où tu sais que,
Les chaussettes.
ouais.
Xox.
Oui, alors effectivement, c'est un point. Et tu sais, j'ai fait un épisode spécialement sur le sujet parce que c'est un truc qu'on néglige tout le temps. Toi,
Ouais,
c'est
non, ça, il faut pas.
Xox.
Ça, ah oui, ça, alors là, il n'y a pas. Aujourd'hui, moi, personnellement, il n'y a pas un meilleur. Disons, pour moi, personnellement, j'en ai essayé des chaussettes. Mais alors là, ça, c'est. Déjà, elles sont increvables. Elles sont garanties 2 ans. Et je ne les ai jamais trouvées. Non, mais elles ne se sont jamais trouvées. Voilà. Je les change parce qu'elles commencent un peu à passer, machin et tout. Mais voilà, c'est les Xos version trail là, avec l'espèce de languette derrière. Là, j'aurais pas le nom en tête. Ah ouais, ça, c'est pour moi, c'est la Rolls des chaussettes. Et j'ai pas d'ampoule. Bon, j'ai peut-être la chance de pas avoir un pied à ampoule, mais voilà, j'ai pas d'ampoule. Je sais pas ce que c'est, quoi.
Et sur les vêtements, on va dire le t-shirt, maillot, etc., t'as une marque préférée?
J'aurais tendance à dire pour le t-shirt non. Après short, je suis très Salomon, mais Salomon basique, c'est-à-dire comme je mets pas de compression, c'est vraiment parce que c'est des shorts qui sont super résistants. Après t-shirt, non. Après non, non, là, pour les t-shirts, si j'ai eu la chance d'essayer quand je suis allé à la Réunion, j'ai découvert le t-shirt Salomon qu'ils avaient sorti, le 37 degrés ou quelque chose comme ça, là. On m'avait vendu ça comme quelque chose d'assez intéressant thermiquement. Et j'ai été bluffé parce que c'est vrai que je souffre beaucoup de la chaleur. Et à la Réunion, je n'ai pas souffert. Voilà. Donc, ouais, à la rigueur, ouais, t-shirt Salomon, mais parce que, ouais, c'est quelque chose qui est abouti, quoi. Ouais, qui est abouti.
Oui, puis ils travaillent beaucoup effectivement dans le domaine du trail et tout, et puis ils ont des
Ouais, c'est quand même. Moi, j'ai commencé avec eux. Hein. J'ai pas les chaussures, les premières chaussures de trail, c'était eux. Ils ont eu du mal à évoluer pendant certaines années. Aujourd'hui, ils ont fait de gros gros efforts sur l'aspect légèreté, confort et tout ça. C'est des chaussures très très intéressantes. Mais c'est vrai qu'en termes de textile, je trouve que je suis peut-être moins fan du sac, moins fan du sac. Mais j'avoue que les textiles sont très très intéressants.
Et tiens, pour finir, une petite astuce alimentaire, parce qu'on a parlé un petit peu d'alimentation au début. T'as un petit secret d'alimentation, un truc comme ça, tu sais que ça te qu'il faut toujours l'avoir dans ton sac avant de partir, quelle que soit la distance, l'entraînement que tu fais?
Non, honnêtement, j'ai toujours. Si aujourd'hui, eh ben, ça fait maintenant une petite année que Happy Run m'a fait confiance, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un petit gel Happy Run tout le temps dans mon sac au cas où. Parce que ben, j'ai tendance à m'alimenter correctement le matin quand je vais m'entraîner. J'ai pas eu la chance de les tester sur les courses, j'avoue, parce qu'il n'y en a pas eu depuis. Mais ouais, je prends toujours, oui, à la rigueur, de la pâte de coin, une pâte de fruits pour aller m'entraîner, histoire que si jamais, tu sais, tu as une petite hypo, tu puisses rentrer tranquillement. Mais c'est vrai que quand je pars m'entraîner, j'ai tendance à pas spécialement avoir grand vivre dans mon sac, quoi. C'est juste vraiment parce que je sais que ça va passer tranquillement, quoi.
Et ben voilà, alors Happy Run, hein, je le précise, je les avais eus il y a
Oui, je sais.
3 semaines, hein, je crois, dans un épisode,
Oui.
je sais plus. Je sais que en fait, ils ont fait des adeptes. Il y a des gens qui ont acheté derrière parce que. Et puis moi, j'en ai un petit stock à la maison. Et à force de dire oui, le miel, ça fait partie des choses qu'il faut prendre. C'est vrai que je sais que on a certains auditeurs qui ont testé. Donc j'attendrai leur retour aussi pour dire ce qu'il en est. Mais moi, j'ai fini mon stock déjà et j'ai prêt avant mes entraînements, etc. Et ça fait partie, c'est vrai, des solutions. Moi, je suis anti-gel, mais pas. Enfin, ça me dérange, tu sais, au niveau du ventre, je suis pas bien après.
Ah oui, non, mais moi aussi, attention, c'est pour ça que j'en avais discuté avec Leïla. C'était sur de la longue distance, l'apport, on va dire, instantané de sucre, des gels, c'est destructeur, quoi. Au bout de 10 heures de course, tu as l'estomac, il est totalement. Et le foie, il doit être au taquet, quoi. Donc, non, non, ça, les gels de course, c'est. Aujourd'hui, j'avoue que j'ai totalement proscrit. Donc après, c'est du nougat. Alors le nougat, voilà, c'est du nougat, des pâtes de fruits. Et aujourd'hui, ben, je te dis, ouais, le miel, je n'avais pas testé. Et j'avoue que ouais, c'est une belle alternative, je pense. C'est une belle alternative.
Ouais, et tu vois, moi j'ai pas testé le nougat, mais tu me donnes envie de tester le nougat.
Ouais, le nougat, ouais. Le nougat, c'est pareil. Et aujourd'hui, je pense que le rapport calorique par rapport à la masse qu'on transporte, c'est la pâte de coin. Le coin, c'est très calorique.
Ouais.
Et du coin séché, disons, la pâte de coin séché, c'est un excellent apport. Et là, c'est pareil, j'ai jamais eu trop de soucis sur le sujet, quoi, avec ça. J'en avais ramené à La Réunion. Non, non, c'est pâte de coin, c'est très très bon. Ou la pâte de fruits, quoi.
Eh ben écoute,
Après,
ça fait.
il faut que ça soit des trucs préparés, quoi.
Ouais, fait partie des choses donc à tester. Mais d'ailleurs, je crois, tu sais, l'autre jour, j'ai acheté au marché, il faudrait que je fasse un retour de quelqu'un qui vend des espèces de trucs sportifs avec de plein de fruits. Et je crois que dedans, il y avait du coin, justement. Donc je regarderai.
Oui, le... Moi, j'aime beaucoup.
Ouais, donc ça serait parti. Voilà, la petite anecdote pour finir. La pâte de coin à tester. Bah écoute, Cyril, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le temps que t'as passé avec nous, pour bah, ces conseils, pour ces aventures, etc. Alors attends, j'étais en train de chercher ton compte Instagram et tu vas nous rappeler ton compte Instagram. De toute façon, je le mettrai en lien dans les notes de l'épisode.
Ben, mon compte Instagram, c'est le Taz Trail Runner, pardon, excusez-moi.
Voilà, et donc on peut pas te louper de toute façon avec ton sourire, tes lunettes, tes sauts dans tous les sens, etc. C'est vrai qu'il correspond tellement bien l'image, le Taz, de ceux qui ont regardé le
Ouais,
dessin
étonnant,
animé.
mais et ouais, c'est ceux qui connaissent le dessin animé, voilà, je suis un peu bouillonnant, quoi.
Eh ben, est-ce qu'on peut, je sais pas, parce que t'as dit que ton fameux défi que tu devais faire sur les Cévennes a été repoussé, donc je sais pas si tu t'es déjà projeté sur ce que t'allais faire l'an prochain, si finalement tu te dis, ben, c'est partie remise l'an prochain, ce projet?
Ah, le défi, le projet est partie remise l'année prochaine. Normalement, eh bien, on fait miroir de ce qui était prévu cette année. C'est-à-dire, ben, normalement, il doit y avoir l'Ultra de Lozère au mois de mai, puis il y aura, j'espère, la TDS en août. Et puis, je réfléchis peut-être à faire le Trail de France.
Qui est où?
Ben, qui est une course à étapes de 380 km
Équipe.
qui passe le Jura, le Vercors, les Cévennes. J'ai pas trop étudié le truc encore, mais j'y réfléchis fortement.
Oui,
C'est au
ah
mois de
oui,
juillet.
mais... ouais, j'avais vu le site, ouais, effectivement.
Voilà.
Oui, maintenant que tu m'en reparles, je vois à peu près le truc. Oui, alors ça a l'air d'être un sacré défi quand même, hein, là aussi.
C'est une course à étapes de 6 jours, donc voilà, ça peut être intéressant parce que les courses à étapes, c'est beaucoup dans le partage les courses à étapes. On est moins nombreux, on vit pendant 3, 4 jours, 2 jours ensemble. C'est une autre approche de notre sport. Ça change de j'arrive, je prends un dossard, je fais ma course et je m'en vais, quoi. Voilà. On vit ensemble, on partage des trucs. Le Stevenson, par exemple, on a passé 4 nuits ensemble, c'était extraordinaire. Quand on était 21 sur 200 km, on va te dire. C'était quelque chose d'exceptionnel.
Eh ben écoute, merci beaucoup Cyril pour ton sourire, pour tes conseils, pour tout ça. J'encourage tout le monde à aller suivre ton compte Instagram où on verra un petit peu toutes ces photos, toutes ces. On attend de voir. Moi, j'attends de voir quelle sera la prochaine photo un petit peu amusante et rigolote. Parce que voilà, moi, je me dis bon, qu'est-ce qui va nous sortir la prochaine fois, etc. Puis hier, j'ai vu que t'avais fait du vélo, que t'avais essayé de te lancer un défi un peu façon hamster, hein, de chez nous. Je me suis dit, tiens, il tourne en
Oui,
boucle quand même. Hein.
c'est hamster, ouais, sur une voie rapide dans Marseille.
J'ai rigolé parce que tout le monde t'a vu plus rapide que ce que tu n'étais. Donc tu vois, c'était assez drôle quand tu demandais le kilométrage, etc.
Ouais, il faut pas me croire plus fort que ce que je suis. Je vais peut-être loin, mais pas vite.
Eh ben en tout cas, c'est une bonne manière, hein, comme dit la fable, hein, d'arriver au bout, c'est pas forcément le plus rapide qui arrivera de façon au bout. Et ben merci beaucoup en tout cas pour tous ces pour tous ces. Je dis pas conseil parce qu'on a dit qu'on c'était pas des conseils, c'est plutôt ton partage d'expérience, hein, qui était de coureur dans ce dernier
Ouais,
ravito.
mon vécu.
Ton vécu, voilà, qui est chouette et qui donne envie, hein, on se dit il y a des belles aventures à vivre et j'espère que tous ceux qui sont inspirés, ils t'enverront des messages, des petits commentaires s'ils ont des questions complémentaires. Je le redis, hein, tu
Pas
avais
de souci.
raconté ton parcours aussi dans Let's Trail, le podcast. Où tu racontes plus ton parcours sportif, etc. Où c'est très intéressant aussi. Ça sera un très bon complément. En tout cas, merci beaucoup pour le temps et pour ces chouettes messages. Et nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Ciao, merci beaucoup et à bientôt.